Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur le 101.5 FM de Radio G, il est 14h, bienvenue dans On n'a qu'à inventer. C'est une série de portraits radiophoniques de créatives et créatifs des temps modernes. 40 minutes pour échanger avec des personnalités passionnées et passionnantes, de celles qui créent, qui fabriquent, en amont de celles qui inventent. Voilà ce que je me suis dit, quelle chance, quand mon invité du jour m'a proposé de venir enregistrer cette émission numéro 17 dans un endroit un peu spécial, un peu impressionnant, voire même un peu magique. Certains diraient envoûtant. Mon invité de ce dimanche 23 mai 2021, c'est le chorégraphe et metteur en scène Christophe Garcia. Il est également le directeur artistique de la compagnie La Parenthèse, compagnie qui fête ses 20 ans en 2021. Et c'est ici, entre ces murs, que Christophe Garcia a créé très récemment une jolie promesse à l'attention des spectateurs et spectatrices, celles et ceux qui ne sauraient tarder à retrouver très prochainement le chemin des salles de spectacle, des théâtres, des scènes à ciel ouvert, bref, à se reconnecter au sacrement vivant que seul le spectacle live peut offrir. Ce lieu qui nous accueille, c'est la collégiale Saint-Martin. Et pour celles et ceux à qui cela ne dirait rien, sachez qu'il s'agit d'un haut lieu historique, patrimonial et culturel de la ville d'Angers. Wikipédia me souffle même dans l'oreillette que cet endroit est, je cite, « l'un des monuments carolingiens les mieux conservés de France et un témoignage de 15 siècles d'évolution architecturale ». Son cœur est notamment un très bel exemple du style gothique angevin. Merci Wiki, mais surtout merci à Christophe Garcia et à l'équipe de la Collégiale Saint-Martin, donc, d'accueillir le mini-studio Vagabond de Radio G pour une édition un peu spéciale d'On n'a qu'à inventer. La promesse qui a été faite par Christophe Garcia et ses interprètes dans ce lieu si spécial, c'est celle des Nuits d'été, un projet sur lequel nous reviendrons largement au cours de l'émission et qui résonne si bien avec l'actualité. Quelle chance de les retrouver bientôt ces Nuits d'été. Des nuits libres, des nuits amicales et amoureuses, peut-être. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Car Christophe Garcia aime parler d'amour, j'en suis sûr, de tendresse aussi. Il n'y a qu'à voir celle avec laquelle ses interprètes s'animent, se frôlent et s'esquivent. C'est une très belle promesse qui a été murmurée ici par ses interprètes, il y a quelques semaines, dans le cadre des Résonances Saint-Martin, festival culturel qui a réuni cette année de nombreux artistes, proposant au public des captations de haute qualité à retrouver sans attendre, une fois l'émission terminée, évidemment, sans attendre sur les plateformes vidéo habituelles. Quelle chance, vraiment! Alors savourons-la ensemble, cette chance. Nous partons pour 40 minutes à partager, ici à la Collégiale Saint-Martin et sur Radio G. On n'a qu'à inventer, saison 1, épisode 17. C'est parti. Bonjour Christophe Garcia.
Bonjour.
Enchanté.
Enchanté. Parce
qu'on ne se connaissait pas avant. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre.
Avec plaisir.
Et merci d'avoir accepté l'invitation à venir au micro de On n'a qu'à inventer. Dans ce lieu incroyable.
Magique.
Magique, ouais. J'ai bien choisi les mots dans l'intro.
Bravo.
En l'écrivant à l'avance, je ne me doutais pas à quel point c'était magique et envoûtant. Donc vraiment un grand merci, puis un grand merci, donc j'aurai l'occasion de le redire plusieurs fois à l'équipe de la Collégiale pour cet accueil. Tu peux décrire aux auditeurs, auditrices, où est-ce que nous sommes installés dans la Collégiale, en ce moment précis où nous parlons?
Alors, on est tout au fond de la Collégiale, au cœur du cœur de la Collégiale, à l'endroit où il y a le plus de lumière et qui nous laisse voir toute la perspective de la Collégiale avec justement tout son jeu de lumière et d'ombre qui s'enchaîne sur plusieurs dizaines de mètres.
Et pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit pour répondre à mon invitation?
Eh bien, parce que donc l'invitation était de choisir un lieu qui m'est cher. Alors c'est un lieu qui m'est particulièrement cher parce que c'est un lieu qui invite à la danse pour moi, parce que c'est un lieu qui est plein de lumière, qui est plein de couleurs, qui est d'une rare beauté. Et c'est un lieu qui m'est cher en ce moment parce que c'est celui qui m'a permis de faire cette promesse des nuits d'été, de danser alors que c'était bien compliqué ces dernières semaines. Donc pour plein de raisons, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement.
Et tu m'as dit avant de commencer l'émission que tu étais venu danser au moment du déconfinement, tout seul, si j'ai bien compris.
Oui, au premier déconfinement, ma grande envie, c'était de venir danser. Alors que moi, je suis plutôt chorégraphe, donc je fais d'habitude danser les autres. Mais là, j'avais moins besoin de danser, de retrouver mon propre mouvement. Et c'est à la collégiale que très spontanément, je suis venu redanser.
Alors, on est parti pour 40 minutes tous les deux. Tu as accepté donc l'invitation à venir évoquer au micro ton parcours, tes inspirations, ton processus créatif. Et puis, on va pouvoir parler très largement un petit peu plus tard dans l'émission, du coup, donc des promesses des nuits d'été, dont une captation a été proposée par le département.
Par le département, oui. La collégiale est un lieu qui appartient au département du Maine-et-Loire.
Donc, dans le cadre des Résonances Saint-Martin, c'est un festival qui a eu lieu uniquement en... Comment on dit ? En distanciel ?
Non. Voilà, en captation. Voilà. Seulement, ça a été créé pour la captation. Mais d'ailleurs, on l'a adapté, c'est-à-dire vraiment, on l'a créé pour ce média-là. Donc, ça a amené aussi une autre saveur, une autre couleur particulière.
Donc, à retrouver très facilement sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, mais comme d'habitude, on n'a qu'inventé. On va commencer par un petit voyage sonore, une exploration de 2 minutes et 30 secondes environ sur le chemin de l'enfance. De l'enfance à Annecy, pour toi, ville dont tu es originaire, avec un petit détour en Italie où parfois la vie est belle. Et pourquoi pas encore en écoutant la voix d'une certaine chorégraphe toulousaine, source d'inspiration de ton parcours, qui dit que son pays, c'est l'endroit où elle peut travailler. On se retrouve de l'autre côté de cette capsule spatio-temporelle et sensitive. A tout de suite sur Radio G.
Danseuse, je suis née à Toulouse, je suis partie assez jeune d'ici et j'ai voyagé, j'ai été dans beaucoup de pays et me voici revenue dans ma ville natale.
C'est par là, non ?
La décision a été vraiment très ouverte. Je pense que si j'avais pas pu travailler à Toulouse, je n'y serais pas revenue parce que mon pays à moi, c'est l'endroit où je peux travailler.
De retour sur Radio G dans l'émission N'a qu'inventé, numéro 17, avec Christophe Garcia comme invité. On vient donc de faire un petit voyage spatio-temporel, comme je disais juste avant. Je vais nommer d'abord ce qu'on a entendu, puis ensuite, si tu veux bien partager avec les auditeurs, auditrices, ce que cela t'évoque. J'ai trouvé ce titre qui s'appelle Annecy, tout simplement, donc la ville dont tu es originaire, par un artiste qui s'appelle Kasi Lambiste, si je prononce bien, je vérifie, Kasi Lambiste, pardon, voilà, qui est un jeune musicien de Montpellier à la base. Ensuite, on a entendu un extrait du film La Vita è Bella, je le dis pas bien, La Vie est Belle, de Roberto Benigni, qui est fort en émotion, je trouve, qui est très joli, puis qui a très bien résonné dans ce lieu incroyable qui est la Collégiale Saint-Martin. Et ensuite, on a entendu la voix de Maggie Marin, dont tu vas nous dire quelques mots si tu veux bien, notamment pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. À toi.
Alors, je connaissais pas cette musique qui s'appelle Annecy, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit groove qui était très annécien, dans quelque chose de léger, d'assez solaire, comme ça, que j'ai découvert.
Et ça parle du retour à l'enfance.
Ça parle du retour à l'enfance. Ah ben,
je vous invite à regarder.
On est en plein dedans. La vita est belle, là, c'est donc, bah, pour moi, ça représente tout mon amour que j'ai pour l'Italie, que j'ai eu la chance de découvrir petit, et puis, ben, bah, en bon au Savoyard, c'est vrai que c'était la proximité, et j'ai eu la chance d'y aller plein de fois. Ensuite, quand j'étais jeune danseur au sein du Béjar Ballet, c'était un pays dans lequel on tournait énormément, et j'ai eu beaucoup d'amis, d'amour, je suis un grand gourmand, donc j'aime beaucoup, beaucoup l'Italie aussi pour ça. Et La Vita è Bella, c'est le film avec lequel j'ai appris à parler italien. Voilà, avec une amie qui était très bonne pédagogue et qui m'a dit, avec ce film, on va t'apprendre. Donc on l'a regardé une vingtaine de fois et elle mettait pause à chaque réplique et elle me les expliquait.
Voilà. Alors tu saurais traduire peut-être ce qu'on vient d'écouter ?
Ah bah oui, bonjour nos principesses,
ça
c'est le moment.
Ça, moi, je le ferme.
Le moment où Benigni appelle sa bien-aimée, et la fin, le gamin quand il dit mamma abbiamo vinto un carmato nuovo, c'est à la sortie de la guerre, et il rêvait d'avoir un char tout neuf, et il voit les chars américains arriver. Donc pour tout le monde, c'est le bonheur de la libération, et pour lui, c'est enfin son bonheur à lui. Voilà.
Très joli moment que je vous invite à redécouvrir.
Oui, ça m'a ému de le réentendre.
Ouais, c'est très fort en émotion. Je t'avoue qu'au montage de la petite séquence, j'ai eu deux, trois petits moments. Je l'ai pas vu depuis très longtemps ce film, mais ça m'a redonné envie, en effet, de le redécouvrir. Et puis enfin, donc, Maggie Marin.
Et Maggie Marin, qui fait partie des artistes qui m'ont toujours inspiré. Parce que on a un début de parcours parallèle, c'est-à-dire qu'on a tous les deux un bagage académique classique, et puis on a eu l'aventure Béjart, et toujours le désir de créer, d'avoir sa propre structure. Alors je m'arrête là dans la comparaison, puisque je regarde Maggie avec infinie humilité. C'est une artiste que je trouve radicale, dont j'aimerais avoir la puissance, qui va au bout de tout, et dont à chaque fois que je vois un spectacle qui me plaise ou qui ne me plaise pas, ben je m'en souviens pendant des années. Je me souviens de ses couleurs, de ses lumières, voilà. Et le lien entre tout ça, entre Annecy, l'Italie et Maggie, il y a l'accent. Je me rends compte, l'accent au Savoyard qui est très fort, l'italien. Et Maggie, la Toulousaine, et c'est curieux parce que j'ai un grand amour pour les différents accents. Je m'amuse beaucoup à jouer avec les accents dans la vie, voilà. Donc je viens de faire ce lien.
Tu voyages notamment pas mal au Québec, si je ne me trompe pas.
Et on parlera encore d'accent, voilà, oui, c'est ça. Je voyage beaucoup au Québec, j'y ai vécu et j'ai un grand attachement.
Ouais. Merci pour toutes ces éclairages, ces illustrations par rapport à donc, ce qu'on vient d'écouter. Tu as parlé de Béjart, est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots à nos auditeurs et auditrices qui n'en auraient jamais entendu parler, il y en a forcément, qui était-ce et puis comment est-ce que toi tu t'es formé là-bas ?
Eh bien Béjart, Maurice Béjart, c'est un des grands chorégraphes du XXe siècle qui s'est éteint il y a un peu plus de 10 ans, j'ai pas la mémoire des dates. C'est un chorégraphe que j'admirais puisqu'il avait un grand sens de la mise en scène, de la musicalité, il travaillait avec des grands groupes. Et c'était un chorégraphe qui avait peu de limites aussi dans les espaces. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, de sortir un peu des espaces de théâtre. Une des choses qui me faisait rêver en voyant ces spectacles, c'était un spectacle qu'il a créé sur une scène qui divaguait tout le long du Rialto à Venise. D'autres grands spectacles, c'est au Grand Palais en 1989 pour la célébration du bicentenaire de la Révolution. Enfin, il a fait des choses énormes et moi j'aimais ça. J'ai grandi avec la danse qui remplissait des stades, qui remplissait des grands espaces. Et puis c'est aussi un sens de la musicalité, je le disais, mais qui était riche, qui était pointu, qui, moi, gamin, m'a fait dire « Ah oui, je veux danser par rapport à ça. »
Bah justement, quelles ont été peut-être les grandes étapes entre l'enfance, l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte qui t'ont amené à dire « je veux » et puis « je danse » et c'est, ça devient mon métier?
Alors, la première étape, je ne m'en souviens pas parce que c'est une légende. Enfin, ce n'est pas une légende, mais c'est ce qu'on me raconte. C'est l'histoire du petit garçon qui dansait tout le temps. Justement, mon premier voyage à Rome. Effectivement, les quelques photos où j'ai 6 ans, dès qu'il y a une photo de quelque part, je suis en train de danser au milieu du Panthéon, au milieu de Saint-Pierre. Donc, il y a ça avec apparemment un désir de prendre des cours de danse. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une maman attentive à ça qui m'a d'abord inscrit au théâtre parce qu'elle pensait peut-être que c'était une autre voie, et c'est la prof de théâtre qui a dit à ma mère non, lui il veut danser. Voilà, donc très vite.
Et t'as pas de souvenir de toi petit disant je veux danser justement?
Non, j'ai des souvenirs de danser, j'ai des souvenirs de faire danser les autres, de faire danser les Playmobil, les poupées, les voitures, les cousins, les frères et sœurs en permanence, mais j'ai pas ce souvenir de oui je veux danser. Après oui, je l'ai formulé parce qu'à un moment, en fait, du plus profond de ma mémoire, quand on m'a demandé quel métier tu veux faire, ça a toujours été danseur professionnel. J'ai jamais eu d'autres
hésitations par rapport à ça?
Absolument pas, non.
Et alors, arrivé un peu plus grand, comment est-ce que ça s'est concrétisé pour toi?
Eh bien alors, après une formation un peu difficile, mais passionnée et jonchée de deux gens fantastiques qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis des choses qui n'auraient pas été possibles tout seul, j'ai réussi à rentrer dans l'école de Béjart. Et là, j'ai eu une autre. C'était une petite révolution parce que cette école n'était pas seulement une école de danse, mais aussi une école de théâtre, de musique. Et là, je me suis rendu compte que ça touchait beaucoup d'autres choses, ça remplissait beaucoup d'autres cases que j'avais envie de remplir. Et là encore, j'ai eu une petite chance qui est une grande chance qui est que Béjart a eu envie de me faire confiance et de me faire rentrer dans sa compagnie en tant que danseur. Voilà.
Ce qui, j'imagine, était un sacré honneur et un sacré engagement.
Oui, je me suis senti vraiment infiniment heureux, infiniment honoré. Mais ça a été de courte durée puisque je me suis rendu compte très vite que je n'aimais pas tant que ça être sur scène. Voilà, j'aimais pas la rigueur que demandait le métier de danseur. J'aimais pas forcément être sur scène, se préparer, les saluts, les fins de spectacle en tant que danseur. Et j'ai eu une petite crise à me questionner si je m'étais pas trompé de métier, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était vraiment la chorégraphie que je voulais faire, la mise en scène.
Et comment est-ce qu'on apprend justement à chorégraphier, à amener les autres à faire ce qu'on a imaginé nous?
Moi, j'ai pas appris. Alors maintenant, il y a des écoles, il y a des formations pour ça, mais à l'époque, il y en avait pas. Et puis, c'est vraiment deux métiers différents. C'est pas une transition de l'un vers l'autre. C'est vraiment. Donc, ça s'est fait de manière très spontanée, mais c'était tellement simple et naturel et joyeux quand je mettais les mains dedans que j'ai tout de suite su que c'était le bon projet, en fait.
D'accord. Et t'as quel âge à ce moment-là?
J'ai 18 ans.
Oui, donc très jeune. Très jeune. C'est bon, c'est ça, c'est la chorégraphie.
Enfin, exactement.
Voilà, ouais. Voilà. D'accord. Est-ce que t'as un souvenir avant qu'on fasse une petite pause musicale qui sera très adaptée à cet incroyable lieu, encore une fois, je le dis, dans lequel nous sommes? Est-ce que t'as un souvenir d'un premier spectacle ou d'un premier spectacle que tu as chorégraphié? En tout cas, un moment fort ou...
C'est encore lié à Béjart. C'est vraiment la première fois qu'une de mes œuvres a été sur scène. J'avais créé un petit solo pour une amie. Il avait mis le nez dans le studio par hasard. Il avait regardé et il m'a dit quelque chose d'encourageant. Et 15 jours après, il m'a dit « J'ai une carte blanche, je fais un gala, si tu veux, tu pourras mettre ce solo qui s'appelait Alice. » Et donc, on a joué Alice dans un gala à Gênes, en Italie. Et c'était mon dernier spectacle avec le Béjart Ballet et mon premier spectacle en tant que chorégraphe.
Ah ouais, voilà. Belle transition, c'est un beau cadeau qui
tout à fait
proposé de vivre.
Oui, c'était inespéré. Ouais. C'était un beau passage, en fait.
Ouais, puis une belle impulsion, j'imagine, un encouragement à la suite.
Tout à fait.
Et avoir confiance en soi, quand même, pour Ça aide, quoi.
Ça aide à se lancer.
J'imagine. Bon, je te propose une petite pause musicale, donc, avec le groupe composé. Alors, je vais te laisser le dire, parce que j'ai toujours peur d'écorcher les noms. Est-ce que tu...
Alors, il s'agit de Rosemary Stanley et Dom de la Nina.
Qui composent le duo Birds on the Wire.
Exactement.
J'ai découvert ça.
Exactement. Et donc, c'est la musique, c'est Aux Solitudes, qui est de Purcell. Voilà. C'est une très belle interprétation de cette œuvre.
Et vous pourrez retrouver enfin, vous pouvez retrouver déjà en captation vidéo aussi ce titre. Alors, je ne sais pas si on se demandait avant l'émission si ce titre était inclus dans ce petit concert qui a été proposé, mais a priori non. Bref, vous pouvez en tout cas retrouver Rosemary Stanley et Dom la Nena, donc du groupe Birds on Wire, dans une vidéo de la série Angers Pousse le son. Voilà, qui a été proposé à l'automne dernier, automne-hiver dernier, et une captation très jolie qui a été faite dans le cloître du... Attendez, je vais m'y retrouver. Dans le cloître du musée Jean Lursa. Voilà, donc on vous invite, Christophe et moi, on vous invite à aller découvrir cela de toute urgence, également après la fin de l'émission, s'il vous plaît. On en écoute un extrait avec le titre donc « Aux Solitudes ».
Solitude. Aux Solitudes.
Aux Solitudes, tout simplement. Pas besoin de mettre d'accent pour une fois. On se retrouve juste après sur Radio G.
Solitude, my sweetest choice. Oh, solitude, oh, solitude, my sweetest, sweetest choice. Places devoted to the night, remote from tumult and from noise, a ye my restless thoughts delight. Oh,
sur le 101.5 FM de Radio G avec Christophe Garcia, l'invité spécial de cette émission numéro 17 d'On n'a qu'à inventer. Nous sommes toujours à la Collégiale Saint-Martin qui nous a ouvert les portes exceptionnellement. Et comme je le disais en introduction, quelle chance d'être dans ce lieu incroyable. J'ai proposé à Christophe dans quelques instants de nous décrire la captation qui a eu lieu du spectacle La Promesse des Nuits d'été. Captation qui a été réalisée il y a quelques semaines dans ces lieux, avec plusieurs interprètes de sa compagnie, la compagnie La Parenthèse donc. Mais juste avant, j'aimerais proposer à Christophe de nous décrire avec ses mots à lui voilà, l'environnement dans lequel nous nous trouvons tous les deux, et ce qu'il y trouve, et ce qu'il y ressent, et ce qu'il y perçoit éventuellement. Voilà, c'est un peu ta carte blanche pour faire, permettre aux auditeurs, auditrices d'imaginer pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas.
On va essayer de faire imaginer le lieu pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, c'est un lieu qui est donc un grand lieu patrimonial, mais qu'on doit imaginer chaleureux parce que c'est un lieu qui n'a pas de la froideur des églises, qui a déjà une belle couleur ocre au sol par les tomettes, qui viennent de se refaire d'ailleurs une beauté pour la réouverture du 19 mai. C'est un lieu avec beaucoup de blanc, beaucoup d'ocre, avec une lumière qui change minute après minute. Et au moment où on parle, à ce moment, il y a exactement un changement de lumière que j'apprécie beaucoup. C'est un lieu qui permet des grands mouvements, des grands déplacements, et qui est, malgré son imposante posture, très ouvert sur le monde. Et aussi, je voudrais parler de l'équipe de ce lieu, parce que c'est une équipe qui permet vraiment à ce que beaucoup de choses très différentes se passent, et parfois dans des choses singulières, marginales, alors que c'est un lieu qui pourrait appeler à quelque chose de beaucoup plus conservateur, en fait. Ouais. Et j'aime beaucoup ce décalage.
Alors justement, dans le cadre, donc je parlais tout à l'heure des Résonances Saint-Martin, c'est un festival qui existe depuis quelques années maintenant, proposé par le lieu, donc qui a eu lieu uniquement à travers des captations vidéo cette année. Il y a eu quatre propositions, deux propositions dansées avec Buet, du chorégraphe Alban Richard. L'autre proposition, c'était donc la tienne, Christophe, avec La Promesse des Nuits d'été. Ça a eu lieu, en tout cas, ça a été proposé en vidéo le 18 avril 2021, à 15h pour être précis. Et puis nous avons aussi un concert de Titi Robin, intitulé Retour aux sources gitanes, et encore de la musique avec un spectacle qui s'appelait Paysage avec ruines avec Irès Jolis, ou Jolie, et le quatuor Métamorphose. Bref, revenons-en à La Promesse des Nuits d'été. Je t'ai proposé, Christophe, et je te remercie d'avoir accepté, de nous décrire un extrait de la vidéo. Je te propose de t'installer et de nous parler du spectacle Les Promesses des Nuits d'été.
Alors, le moment que j'ai choisi de décrire, c'est un moment un peu fort du spectacle. La musique de Berlioz, Des Nuits d'été, vient de s'achever. Et le voyage des danseurs continue. Ça fait déjà 20 minutes qu'ils sont dans ce voyage, donc ils sont une forme d'épuisement. Et c'est le moment que j'aime parce que la fatigue fait basculer un petit peu les choses. La musique du compositeur Laurier Rajotte prend le relais sur Berlioz et les danseurs courent, sautillent, se regardent, apprécient ce moment, constatent leur fatigue et se lancent dans une forme de transe, en fait, que j'apprécie particulièrement. Des petits duos se forment, il y a de l'étreinte, il y a beaucoup d'amour, de tendresse, il y a je parle beaucoup d'épuisement, mais c'est quelque chose qui me fascine particulièrement dans le danseur, c'est ce don de lui-même, et quand avec la fatigue, il y a les barrières qui tombent, il y a des sourires qui naissent, il y a parfois des larmes, il y a des choses qui viennent vraiment toucher l'émotion pure. Et pendant les 10 minutes qui vont suivre cette séquence-là, ce basculement, et ben on va aller jusqu'au bout de ce voyage. Alors je parle souvent du voyage parce que je décris les nuits d'été comme un voyage dans une forme de cartographie amoureuse, dans laquelle les danseurs vont se confronter aux différents états de l'amour, mais aussi de l'instinct, de la nature, des éléments. Voilà, c'est vraiment une œuvre romantique, comme on pourrait l'entendre au 19e siècle, mais que j'aime imaginer aussi là au début du 21e siècle comme une œuvre romantique de maintenant. Voilà.
Merci beaucoup. Il y aurait sûrement encore plein de choses à dire.
Ah,
c'est pas évident comme exercice, hein. Je te remercie d'avoir improvisé.
Non, j'ai pas été très factuel. Ce moment, je suis resté dans la pièce.
Tu avais carte blanche,
évidemment. C'est vrai que ça m'a inspiré de revoir ce moment précis, qui est à 18 minutes 30 de la captation, pour ceux qui le verront.
Le début,
ils pourront le retrouver.
C'est ça.
Ce dont j'ai parlé était vers 18 minutes.
Donc si vous voulez revivre l'expérience, vous branchez, vous mettez la vidéo et vous écoutez Christophe Garcia vous décrire. Donc ce petit extrait de la captation. Est-ce que tu veux nommer les interprètes qui étaient présents?
Oui, alors les interprètes sont Idir Chattar, Nina Madeleine, Marion Bodino, Julie Compan, Alexandre Tondolo, José Mereles. Et chose très importante dans cette captation, ce sont la musique. Donc je parlais de Laurier Rajotte, qui est un compositeur québécois qui m'accompagne depuis longtemps. Les costumes qui sont d'une infinie beauté, qui sont de Pascal Guéné, avec qui je travaille aussi depuis longtemps. Et les lumières et le son qui sont vraiment aussi très importants, qui sont de Simon Rutten et de Bruno Brevet.
Combien de temps de travail et de préparation pour cette captation?
Alors ça a été un peu particulier puisque normalement c'est un spectacle qui devait naître en 2022, fin 2022, et qu'on a avancé pour pouvoir répondre à cette invitation de captation et pour pouvoir continuer à travailler pendant la période compliquée qu'on vient de traverser. J'aime bien parce qu'on commence à en parler au passé d'ailleurs de cette période.
Oui, pas mal.
Et donc ça a pris, on va dire, 8 à 10 semaines de travail, voilà.
D'accord.
Mais ce n'est qu'une étape de travail. C'est pour ça qu'on l'appelle la promesse. C'est que c'est la promesse de ce qu'il sera, et ce qui sera, ça arrivera fin 2022.
Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur ce qu'il sera en 2022?
Eh bien, fin 2022, ce voyage, j'espère, pourra intégrer les spectateurs, évidemment, mais d'une manière très particulière, parce que je souhaite que ce soit un spectacle immersif dans lequel les spectateurs pourront entrer physiquement sur le plateau et choisir de où ils souhaitent voir la pièce. S'ils veulent s'approcher des danseurs, justement constater cette fatigue, cette émotion, ces étreintes, ou plutôt avoir une vue d'ensemble, comme on regarde un paysage. Soit on regarde la Loire de loin, soit on regarde la petite coccinelle qui vient de passer devant nous. C'est aussi un spectacle qui sera joué en live avec les musiciens, avec une retranscription créée exprès des Nuits d'été de Berlioz. Voilà, donc c'est une très grande forme qui devrait voir le lieu dans un an et demi. Mais on a besoin de temps maintenant.
Et vous avez déjà un lieu de création? Enfin,
De première?
Oui, de première, pardon.
Alors, je pense que la collégiale.
Sur les rangs.
Et puis ensuite, c'est un spectacle qui va beaucoup tourner. Je sais que la toute première, normalement, aura lieu à l'Opéra d'Avignon, qui sont coproducteurs du projet.
Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu voudrais parler, qui viendront peut-être un petit peu avant celui-ci?
Eh bien, en attendant les nuits d'été, les tournées vont bientôt reprendre. Donc, on a beaucoup de spectacles. On a beaucoup de chance parce que tout ce qui ne s'est pas passé l'année dernière va se passer l'année prochaine. C'est beaucoup reporté.
Tu me disais tout à l'heure.
Donc, on a une centaine de représentations avec Le Problème avec le Rose, qui est un spectacle danse-théâtre pour les plus jeunes.
Très beau spectacle. Ah, c'est le seul que j'ai vu.
Ah bon, voilà.
Je me permets de le dire. Et c'est un très, très, très joli spectacle que j'ai vu au THVT de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy il y a 2 ou 3 ans, peut-être.
Deux ans, c'est ça.
Et vraiment une très chouette expérience qui m'a marqué pour différentes raisons. Mais
Je l'aime beaucoup.
J'invite les auditeurs et auditrices à aller le voir si c'est possible.
Et il va reprendre sa route. Il sera au Festival d'Avignon cet été dans le cadre de la programmation des Pays de la Loire. Et puis ensuite, reprendre sa route internationale avec le Canada, l'Angleterre, et la France aussi. Et puis, le projet qui nous tient à cœur particulièrement aussi, c'est Niebo Hotel, qui est un spectacle qu'on a créé comme un subterfuge à cette crise, puisque on l'a créé pendant le premier confinement, avec l'idée de créer le plus petit spectacle du monde. Donc ça se joue réellement dans un hôtel. C'est une invitation vraiment pour un voyage très intime entre spectateurs et artistes, qui a été joué donc à l'hôtel Saint-Julien au mois de juillet.
Quelques pas d'ici, donc en plein cœur du centre-ville d'Angers.
Exactement, et qu'on va reprendre, alors je ne peux pas encore dire où, mais dans un très beau lieu angevin, j'espère, très bientôt.
Okay. Voilà. Bon, à suivre donc éventuellement sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la compagnie.
Très très bientôt. Ouais. Voilà, je peux malheureusement pas avancer plus.
Mais c'est bien de le savoir pour celles et ceux qui auraient envie de revivre l'expérience qu'ils ont peut-être vécue l'an dernier.
Oui, ou de la vivre, parce que la jauge était tellement réduite l'année dernière qu'on espère vraiment pouvoir offrir à plus de monde cette année de vivre ça avec nous.
Combien d'interprètes seraient concernés? J'essaie de grappiller des infos.
Ils sont 7 interprètes, plus pas mal de monde qui gravite autour, la technique, c'est un spectacle un peu particulier qui nécessite beaucoup de monde.
Vous pouvez en voir des tout petits extraits sur le site internet de la compagnie, il y a des petits modules capsule ou module d'une petite minute qui nous permettent en effet d'entreapercevoir à travers une porte qui s'ouvre un petit peu, un habitant de la chambre qui vit tout simplement, des petits moments de vie un peu volés.
Exactement, puis dans un hôtel, il y a plein de petits moments à voler comme ça, parce qu'il y a celui qui est seul dans sa chambre, qui est en voyage d'affaires, ce couple qui se retrouve caché, ce couple qui se retrouve, mais avec un amour en pleine éclosion, cette femme seule avec son bébé, il y a énormément de choses à raconter dans un hôtel.
Vous avez dit qu'on parlerait d'amour et de tendresse cette émission. Je t'ai demandé si tu avais envie de parler d'un artiste ou d'une artiste, d'une personne, d'un projet qui te tenait à cœur, et toi tu as choisi d'évoquer avec les auditeurs auditrices une artiste qui s'appelle Clémence Fernando. Je mets l'accent partout, mais peut-être qu'il y en a pas, qui est artiste plasticienne. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors Clémence, pourquoi j'ai envie d'en parler? Puisque je travaille en ce moment avec elle sur la création du visuel des Nuits d'été, donc de l'affiche, de la signature visuelle des Nuits d'été. Et c'est une plasticienne qui est graveur, qui est sérigraphe, et qui associe un peu comme j'aime le faire, ce travail ancestral de l'estampe et à la création numérique, et qui a un univers d'une poésie rare et en même temps un sens du détail, du travail, qui est d'une grande profondeur avec beaucoup de relief, et donc c'est une artiste que j'ai vue il y a quelques jours pour travailler sur ce projet, et j'ai bien hâte aussi de pouvoir présenter ce résultat.
Vous la retrouvez très facilement, notamment sur les réseaux sociaux, puisque j'ai fait mes petites recherches. En effet, j'ai trouvé quelques éléments de son travail.
Oui, elle est parisienne, d'origine normande, et c'est une artiste qui est très diffusée, qui a un beau parcours et beaucoup de choses à dire.
Donc on vous invite à aller découvrir le travail de Clémence Fernando sur les réseaux, notamment, où elle est très présente, et ça vaut la peine. C'est une belle découverte à faire, ou sinon attendre en effet l'affiche des Nuits d'été. Tu as une idée du moment où l'affiche sera?
On a parlé à l'automne.
À l'automne.
À l'automne,
donc,
voilà.
Assez rapidement quand même.
Voilà. Et j'aime aussi penser les affiches et tout ce qui tourne autour du spectacle comme une œuvre d'art à part entière. Mmh. C'est pour ça que j'ai contacté Clémence. Et puis, par exemple, on parlait du problème avec le rose tout à l'heure. L'affiche a été créée par Candice Roger, qui est une artiste plasticienne angevine, j'aime vraiment donner une matière aussi aux supports qui ne sont pas uniquement que de la com, en fait.
Je t'ai demandé aussi de réfléchir à une définition de la créativité. Tu m'as mis quelques mots sur le papier, mais est-ce que là, spontanément, tu aurais... Alors, une définition, le mot est un peu enfermant, peut-être une évocation. Qu'est-ce que c'est pour toi, la créativité?
Alors, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai mis sur le papier.
Improvise.
Pour moi, qu'est-ce que c'est la créativité? Pour moi, c'est être un outil au service de quelque chose qui est un peu plus grand que nous, et d'être en capacité de transformer ça. C'est-à-dire, ça peut être une idée, ça peut être une émotion, ça peut être une information, et d'être en mesure d'en faire quelque chose qui deviendra donc une œuvre, qui deviendra un point de vue, tout simplement. Donc ça, je dédramatise un petit peu la notion de créativité en me considérant un peu comme un outil à entretenir, duquel il faut prendre soin en travaillant, en fait, par le travail, ce n'est rien de... Pardon, le créateur, pour moi, n'est pas l'objet magique, mais c'est celui par lequel la magie va passer. Un peu comme un tuyau, alors c'est pas très poétique, mais en tout cas, c'est par le tuyau qu'on transforme les choses, voilà.
Et comment, si tu devais donner un conseil à nos auditeurs, auditrices, pour entretenir la créativité, qui à part tout le monde est créatif, C'est souvent ce qui ressort d'ailleurs à cette question. La plupart des gens me répondent que la créativité, ça concerne tout le monde. Comment est-ce qu'on peut en prendre soin de sa créativité? Un petit conseil, un petit tuto
Alors, je vais faire mes trucs à moi, mais c'est pas de moi. Hein. Là, c'est des méthodes et je sais plus qui est l'autrice de cette méthode-là. Mais moi, ce que je fais régulièrement quand je me sens un peu malade de ma créativité, c'est je fais ce que j'appelle mes trois pages, c'est-à-dire que je me réveille et avant même de dire bonjour à qui que ce soit, j'écris trois pages spontanément. J'ai aussi ce que j'appelle mon rendez-vous avec moi-même. Alors c'est très pompeux comme ça, mais c'est juste un rendez-vous de quelque chose qui nous est important, mais qu'on ne fait jamais parce qu'il y a autre chose qui passe. Et c'est quelque chose qu'on note dans notre agenda et qu'on va maintenir. Ça peut être arroser les plantes, enfin ça peut être aller voir un tableau au musée, voilà, quelque chose de quoi qu'il arrive. Et en maintenant cette petite rigueur, moi c'est vraiment par la rigueur en fait que j'arrive à maintenir la créativité.
Voilà. Ce que tu disais tout à l'heure en parlant beaucoup du travail, tu as associé dans la même phrase créativité et travail.
Oui.
On a tendance à les dissocier en disant que la créativité c'est plutôt parfois la loisiveté ou quelque chose qui vient spontanément et qu'on laisse. Mais ça peut être aussi en effet rattaché à la valeur, travail. Hein.
Moi je suis un besogneux, hein. de toute façon, si je bosse pas, j'arrive à rien. Ouais. Et puis là je retrouve encore, on va revenir au début, mais avec l'Italie, avec la notion du travail, la Renaissance, les grands peintres. C'est en toute humilité que je fais le lien, mais j'aime la notion travail dans l'art beaucoup.
J'aime beaucoup quand les invités bouclent même la boucle de l'émission. Ça m'évite de galérer à trouver ou de galérer ou à improviser une conclusion, parfois qui est un petit peu, tirée par les cheveux. Donc merci pour cette belle boucle. Et puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc au micro, n'en a qu'inventé pour cette émission numéro 17. Chers auditeurs, auditrices, vous pourrez la retrouver, la réécouter cette émission en allant sur le site www.radio-g.fr. On va aussi la diffuser via les réseaux sociaux, alors en tout cas sur la page d'en a qu'inventé. Christophe, si
et
tu veux.
Sur la page de la compagnie, la parenthèse,
si tu le souhaites, évidemment. Et en tout cas, et puis peut-être aussi sur la page de la Collégiale Saint-Martin qui nous a très gentiment et très chaleureusement accueillis pour cet enregistrement. La lumière a changé depuis tout à l'heure, a encore changé.
Oui.
On va pouvoir en profiter quelques instants avant de quitter les lieux. En tout cas, merci, vraiment.
Merci
et
à toi.
Plaisir
merci
de découvrir votre travail, la compagnie, le travail de la compagnie, très prochainement sur Angers ou ailleurs. Et à très bientôt, chers auditeurs, auditrices, sur Radio G.
Merci, Christophe. À bientôt.
Sur Radio G.
Radio G. 101.5 FM.
Envie de radio ? Devenez animateur ou animatrice de Radio G.
Si l'expérience du micro et du média radiophonique vous passionne ou vous intéresse, vous avez jusqu'au 15 juin 2021 pour proposer votre propre émission à Radio G.
Si votre projet est retenu, il sera diffusé pendant toute une saison. Alors, n'attendez plus.
Et rendez-vous sur radio-g.fr pour plus d'informations. À l'occasion des 100 ans du média radio, vous avez été nombreux à vous inscrire au concours de chant Radiovision.
Rendez-vous sur radiovision.fr pour écouter les finalistes et voter pour vos préférés.
Vous avez jusqu'au 24 mai pour vous rendre sur la page radiovision.fr.
Résultat en juin prochain sur cette antenne, dans l'émission Radiovision.
Bon vote sur radiovision.fr.
Escapade, yeah, you better call that first aid. I cut deeper than a razor blade. I'm a sick, lyrical lunatic. I'm about to get epileptic. Yeah, supercharged turbo district driver. Can you drive as fast? Can you cater? Now who's addicted? Make you rattle like a snake when you hit this shit. Our product's so pure, uncut, uncharted. The sign is the time, so watch when you fix it. These tracks are somewhat howled. Classified as illegally twisted. We deal in pure scadosa. We explode like a supernova. Burn bright in the sky, that light at night. Like I told you, man, stick to the master plan. If I can, you can, they can, anyone.
everyone can. This is highly addictive material. You can overdose on these class A tracks.